Bonjour à chacun. C'est une joie de revenir dans ce lieu et puis de revoir des visages connus et puis aussi des visages inconnus. Donc ça veut dire que l'œuvre avance. Et ce que je sais, c'est que quand on se réunit pour le Seigneur Jésus, autour de sa parole, on ne manquera jamais d'être béni. Amen. Alors je crois qu'on va être encore béni ce matin. On l'a déjà été par tout ce qui s'est passé, ces chants qui sont montés de nos cœurs jusqu'au ciel, et nous savons qu'autour de la parole de Dieu, nous allons être bénis. Sans plus attendre, je voudrais vous inviter à aller dans les psaumes. Est-ce que vous aimez le livre des psaumes ? S'il y a bien un livre qui est merveilleux, enfin que j'apprécie en tout cas moi personnellement, c'est le livre des psaumes. Et je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 27. C'est un psaume que David a écrit. Il y en a beaucoup qu'il a écrit, David. Et quand on compare, quand on étudie, quand on approfondit le message que David donne, on est toujours touché. Psaume 27, verset 1er de David, donc. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si même une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Vous aviez déjà lu ce psaume, je pense. Si ce n'était pas le cas, vous l'avez découvert ce matin et vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quelque chose de fort dans la bouche de David. Alors moi, la première fois que j'ai lu ce psaume, ça m'a interpellé, mais ça m'a posé question et j'ai émis deux hypothèses. Soit David avait une origine marseillaise, parce que je trouve qu'il exagère quand même. Si une armée se lever contre moi, je n'aurais pas peur. Ça, c'est la première hypothèse. Soit, la deuxième, c'est qu'il a une foi forte en un Dieu puissant et que ce qu'il a dit, ce n'est pas l'exagération, c'est vrai. Et quand on connaît l'histoire de David, on sait qu'il a été confronté parfois même à toute une armée. Saül, avec son armée, le pourchassait, mais dans le cœur de David. Alors, bien sûr qu'il y avait quelques inquiétudes et certains moments difficiles, mais il savait en qui il croyait. Et c'est pour ça qu'il avait une confiance. Et la fin du verset 3, c'est un peu le titre de ce message que j'ai reformulé. Être plein de confiance malgré les combats. Être plein de confiance malgré les combats, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui ? Eh bien, David nous dit que oui. C'est quelque chose qu'il a vécu, et il nous donne un petit peu le secret, on pourrait dire les secrets, même si ce n'est pas secret, puisque c'est à notre portée dans la parole de Dieu ce matin. Le secret pour être plein de confiance dans les combats, c'est d'avoir une conviction forte, une communion avec Dieu forte aussi, et de se consacrer avec le Seigneur. Voilà les points que l'on va aborder ce matin ensemble. J'aime la manière dont David commence en disant « L'Éternel est ma lumière, il est mon salut ». David est en train de confesser ce que l'Éternel, il est pour lui. Qu'est-ce que l'Éternel est pour vous ? Est-ce que vous en avez confiance ou pas ? C'est bon de savoir qui est le Seigneur pour nous. Peut-être il est celui qui a sauvé votre âme. C'est déjà le point le plus important. Mais il est tellement plus encore le Seigneur. David l'appelait le Dieu des délivrances. J'aime les expressions qu'on trouve dans le livre des psaumes. Toutes les expressions qui qualifient notre Seigneur et qui nous montrent qu'on peut vivre tellement de choses avec notre Seigneur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre confiance en Dieu grandit quand on a une pleine conviction. Alors, quelle conviction ? Parce que c'est ça le plus important, finalement. On a tous des convictions. Peut-être que vous avez la conviction de qui sera le prochain maire de Toulouse. Peut-être. Peut-être que vous avez la conviction que c'est la France qui va remporter le Grand Chelem au tournoi des Six Nations. Peut-être. Mais à la limite, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de conviction. Moi, je n'en ai pas par rapport à ça. Je vous le dis tout de suite. Mais le plus important, c'est d'avoir des convictions par rapport à notre Dieu. Et la conviction de David que l'on voit dans ce passage, qui ressort avec force, c'est que Dieu est plus grand que n'importe lequel de nos combats, de ses combats à lui. Dieu est plus grand que ton combat, mon frère, ma sœur. Ça, c'est bon d'avoir cette conviction. Parce que ça permet ensuite de traverser les situations difficiles sans trop s'inquiéter. On s'inquiète toujours, n'est-ce pas ? On est humain, donc à un moment donné, l'inquiétude traverse notre esprit, mais on a appris, avec la grâce de Dieu, à déposer ses inquiétudes au pied du Seigneur et à lui faire confiance. Mais si on dit « Dieu est plus grand que tous nos combats », ça veut dire qu'il y a des combats. Non ? Ben oui. Qui est content qu'il y ait des combats ? Ben il n'y a personne. On voudrait tous passer, progresser avec Dieu, on voudrait tous faire des expériences avec le Seigneur, mais sans combat. Ça serait tellement plus facile. Sauf que le seul moyen que Dieu nous donne pour faire des progrès, c'est de rencontrer l'adversité, de rencontrer des situations compliquées et d'en triompher. Et c'est comme ça qu'on fait des progrès. De s'apercevoir à un moment donné qu'on n'est pas capable, qu'on n'a aucune force par nous-mêmes, mais que c'est lui qui nous amène la délivrance. Et c'est comme ça que l'on avance et que l'on progresse. Ça vous arrive parfois de rencontrer sur la route un automobiliste qui ne roule pas très bien ? Non, à Toulouse, tout le monde roule bien, j'ai remarqué. Surtout le dimanche, quand il n'y a pas trop de circulation. Mais je me souviens, quand il y avait quelques bouchons, le lundi matin, et on voyait toutes sortes de personnes qui passent dans tous les côtés, à droite, à gauche, au milieu. Mais vous savez que parfois, il faut discerner ce qui arrive. Mais parfois, Dieu permet qu'il y ait une personne qui roule très mal devant nous pour nous apprendre la patience. Dieu va permettre qu'à notre travail, il y ait quelqu'un qui soit insupportable pour nous apprendre à supporter, justement. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça ? Mais Dieu est plus grand que tous nos combats. Il y a des ennemis qui peuvent être de chair et d'os. Par exemple, quelqu'un à votre travail, je disais, qui peut se moquer de vous continuellement. Ça arrive, ça m'est arrivé quand je travaillais dans une usine dans les Landes, des ouvriers qui étaient très moqueurs par rapport aux choses de Dieu, ça arrive. On l'a tous vécu, je pense. Et David, lui, sait de quoi il parle quand il est question d'ennemis. Le géant, Goliath, voilà. Pourtant, ce n'est pas le plus difficile à se souvenir, mais... Goliath, le géant, le philistin, vous savez ce qu'il a dit à David à un moment donné ? Il lui a dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ce n'est pas des paroles qui font beaucoup de bien, hein ? Vous êtes d'accord ? On n'aimerait pas forcément entendre ça. Et c'est pour ça qu'on comprend que David, quand il parle des gens qui veulent dévorer sa chair, il n'est pas en train d'exagérer. Il a entendu ça dans la bouche de Goliath. Et Goliath, c'était quelqu'un d'important qui était là. Et c'était un ennemi terrible. Et pourtant, David a eu confiance dans le Seigneur. Est-ce que parce que l'ennemi est terrible, fait 3 mètres de haut, que l'on doit abandonner notre confiance? Ou est-ce que, peu importe les situations, on doit recevoir de Dieu la dose de foi dont on a besoin pour avancer? Je voudrais vous partager ce témoignage d'un couple de croyants qui avait un voisin qui était très bien le jour, très silencieux le jour. On n'entendait rien, mais la nuit, il faisait la fête. Et donc jusqu'à tard le soir, il y avait la musique, il y avait les pas, et on dirait qu'il déplaçait tous les meubles ou qu'il faisait les travaux. La nuit, mais le jour, rien. Et puis aussi, il avait un chien qui était là, qui aboyait, qui dérangeait beaucoup, et un gros chien qu'il gardait dans un appartement, donc il ne le faisait jamais sortir, il faisait ses besoins sur la terrasse, donc il y avait l'odeur, il y avait toutes sortes de choses. Et quand il lui prenait l'envie à ce voisin de nettoyer, il y allait à grands coups de jet comme ça, et ça tombait tout sur leur balcon, juste en dessous. Alors, ils ont essayé de manière paisible d'aller le voir et de lui partager, de lui expliquer, etc. Le résultat, c'est qu'il a déversé des produits chimiques sur le balcon et qui sont tombés sur les quelques petits pots de fleurs et de plantations qu'ils avaient sur le balcon. Donc, il n'a pas du tout été compréhensif, ce voisin. Et ils sont allés porter plainte à la gendarmerie, mais tant qu'il n'y avait pas de mort, ils ne pouvaient rien faire. Je résume. Hein. En tout cas, ils ont demandé au syndic de la copropriété, etc. Mais rien n'y a fait. Ils ont demandé de prier à l'église. On a prié. Plusieurs semaines d'affilée, on a prié pour cette situation, parce qu'on croit que même dans les choses pratiques, le Seigneur peut faire quelque chose. Vous le croyez aussi? On a prié. Résultat, rien ne s'est passé. Alors vous allez dire, bon, un combat perdu. Ils ont dû déménager. Ils ont dû changer d'endroit de résidence, déménager dans un village un peu plus loin. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès l'instant où ils ont déménagé, ils ont pu rendre témoignage à 4 personnes. En peu de temps, 4 personnes sont venues à l'église de Moissac et ont entendu l'évangile. Il y en a 2 qui étaient de la famille de ce couple, des petits-enfants qui sont venus à l'église. Il y en a un qui est en train en ce moment de faire les instructions au baptême parce qu'il veut s'engager avec le Seigneur, qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit à un rassemblement de jeunesse récent. Et sa sœur qui est là dans l'église continue de s'attacher. Et 2 autres qui sont été juste de passage, mais ils ont entendu parler du Seigneur. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans cette résidence avec ce voisin, mais ils essayaient de témoigner, rien ne se passait. Et en changeant, en peu de temps, ils ont amené des personnes au Seigneur. Alors des fois, on ne comprend pas pourquoi on est obligé de déménager, pourquoi on a l'impression que notre combat il est perdu. Mais avec le recul, on sait pourquoi. Dieu nous donne de voir pourquoi. C'est pourquoi on peut dire l'Éternel est notre lumière, celui qui nous éclaire. On a besoin d'être éclairé. Et parfois, alors que nos prières semblent ne pas être exaucées, le Seigneur change le mal en bien. Le Seigneur est celui qui est capable. Et j'aime ce qualificatif. C'est Daniel justement qui dit que, Joseph qui dit que Dieu a changé le mal en bien. Daniel lui dit que Dieu est maître des temps et des circonstances. Et c'est une réalité de savoir qu'on a un Seigneur qui change les circonstances pour les tourner à notre avantage. Alors bien sûr, la parole nous invite à comprendre que ce n'est pas un combat humain, un combat contre la chair et le sang. On n'est pas dans cet ordre-là des choses, mais on est dans ce combat spirituel. Les combats auxquels nous faisons face tous les jours, ils sont spirituels. Les combats contre l'ennemi de nos âmes et ses ruses, ses stratégies. Le combat contre le monde et ses séductions. Le combat contre nous-mêmes, notre chair et ses convoitises. Mais dans tous ces combats, nous avons un Dieu qui est plus grand. Savez-vous que l'épreuve que nous traversons, elle a la taille que Dieu permet? Goliath, il était très grand, mais Dieu a permis cette épreuve. Il aurait pu décider, le Seigneur envoyait un ange, il l'a fait à d'autres occasions, pour terrasser Goliath. Est-ce qu'il aurait pu? Ah ben oui, il est Dieu. Il aurait pu envoyer un ange. Il y a des anges qui ont tué des centaines de milliers de personnes à un certain moment, mais il avait préparé un petit bonhomme, David, David, qui n'était pas le plus aguerri de tous les guerriers, mais qui était celui qui avait la plus grande conviction. L'Éternel est mon salut. Je ne combats pas tout seul, mais je combats avec mon Dieu. Est-ce que vous auriez eu peur en face de Goliath ? Dites-le, entre nous, je ne le répéterai pas. Est-ce que vous auriez eu peur ? Ben, qui n'aurait pas eu peur ? Quel homme sur terre, même le plus grand de tous les guerriers, aurait eu peur ? Parce que Goliath, c'était une montagne de muscles. Même le roi Saül, qui dépassait tout le monde d'une tête, il avait peur de Goliath. Et pourtant, David n'avait pas peur. C'est pour ça qu'on comprend ce qu'il dit. Même si une armée se levait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Il n'avait pas peur parce qu'il ne regardait pas avec les yeux humains seulement, mais il regardait avec les yeux du cœur. Et pour chaque combat qu'on traverse, Dieu nous donne la mesure de force nécessaire. Vous connaissez ce texte qui dit qu'aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu promet que n'importe quelle épreuve, n'importe quel combat, il nous donnera la force nécessaire pour supporter. Vous avez des combats ? Vous avez des luttes ? Puisez en Dieu la force dont vous avez besoin ce matin. Ce n'est pas dans 30 jours, mais aujourd'hui, par la foi, saisissez la force que le Seigneur veut vous donner, parce qu'il est là pour ça, notre Seigneur. Pourquoi est-ce que parfois on connaît l'angoisse, l'inquiétude, la crainte ? Bon, déjà parce qu'on est tous humains, mais pourquoi des fois les situations demeurent ? Parce qu'on cherche la force en nous. On cherche à nous en sortir par nous-mêmes. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. On arrive pendant peut-être quelques jours à y arriver, à faire face, mais au bout d'un moment, on est limité, épuisé. Et c'est là peut-être le meilleur moment où on peut dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Alors, il y en a pour qui ça dure plus ou moins longtemps. Mais combien c'est bon de courir quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, de courir dans la présence de Dieu et de dire « Seigneur, donne-moi. Donne-moi ta grâce. Donne-moi ta force pour que je puisse avancer ». Imaginez Teddy Riner, vous voyez qui c'est ? Grand judoka avec je ne sais pas combien de médailles mondiales, face à un enfant de 4 ans. Qui c'est qui va gagner ? La question ne se pose même pas. Mais c'est exactement l'image entre ce combat entre Goliath et David. Et pourtant, qui a gagné ? David. Parce qu'il avait la foi dans son Seigneur, parce qu'il avait cette conviction que quand Dieu est avec lui, personne ne peut être contre lui. Ceux qui vont se lever contre, ben, ils vont être terrassés, parce que c'est Dieu qui combat en notre faveur. Ce qui change totalement la donne, c'est la faveur de Dieu. Vous aimez la faveur de Dieu ? Est-ce que vous aimez ça vraiment ? Mais je crois qu'il n'y a rien de mieux que la faveur de Dieu sur notre vie. Quand un homme ou une femme a la faveur de Dieu, alors il peut y avoir des montagnes autour, il peut y avoir des combats terribles, mais il y a un Dieu qui est présent et qui travaille en notre faveur. La question qui se pose, c'est comment est-ce que l'on peut avoir la faveur de Dieu ? Finalement, c'est ça le cœur du problème, c'est ça le plus important. Mais il faut que l'Éternel soit notre lumière. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est celui qui me donne son esprit pour voir, qui illumine les yeux de mon cœur pour que je discerne les combats qui sont importants et les combats qui ne le sont pas du tout. Il y a des combats dont l'enjeu n'est pas spirituel. Par exemple, quand Saül s'acharnait à poursuivre David, ce n'était pas un combat dans lequel David il est rentré. Il aurait pu à plusieurs occasions terminer le combat. Hein. Il aurait pu régler son compte à ce roi méchant. Mais il ne l'a pas fait, parce que ce n'était pas le combat qu'il fallait. Le vrai combat, c'était de marcher dans la voie que le Seigneur avait tracée pour David. Oh, même si pendant quelque temps, il fallait d'être un peu dans la fuite, être un peu dans comme un fugitif. Mais vous savez, parfois on perd du temps dans les combats inutiles. C'est tellement bien de laisser le Seigneur nous éclairer et nous amener à rentrer dans le combat, le bon combat de la foi, comme le dit Paul dans un des textes du Nouveau Testament. Et c'est bon aussi de prendre position. David a déclaré sa conviction dans son cœur, il l'a déclaré, mais il a aussi déclaré à Goliath, puisqu'il lui a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Amen. Vous les connaissez ces paroles. Je ne fais que répéter ce que nous trouvons dans la Bible. Mais combien c'est bon de réaliser par le Saint-Esprit la portée, l'importance de ces paroles. L'Éternel est notre salut. L'Éternel est celui qui nous donne la victoire. L'Éternel est celui qui triomphe de tous nos combats. Nous ne devons pas tomber dans les combats humains, mais nous devons toujours combattre le bon combat de la foi pour que la faveur de Dieu soit sur nous et pour que l'œuvre puisse avancer quelles que soient les situations. La semaine dernière, je vous partage quelques nouvelles aussi de Moissac. La semaine dernière, nous étions heureux parce que nous avons eu un baptême et on l'a fait à cette occasion. D'habitude, on le fait le dimanche après-midi, mais à cette occasion, on l'a fait le dimanche matin. Et j'avoue que c'était la première fois que je voyais l'église aussi remplie. On a compté à peu près, parce qu'on a mis toutes les chaises qu'on a pu trouver, les chaises à peu près normales, et puis on a dû sortir même les vieilles chaises en bois qui traînaient dans le coin. Il y avait entre 110 et 120 personnes qui étaient dans l'église. J'ai jamais vu l'église aussi remplie. Alors c'est vrai qu'il y avait une grande partie qui était la famille qui était venue rejoindre, ils étaient entre 20 et 30 la famille, donc ça fait quand même du monde. Mais ils m'ont dit, mais il y avait même des gens, on ne sait pas d'où ils sortaient, qui sont venus à cette occasion. Et il y a eu un excellent témoignage de manière globale, et puis surtout ce bon témoignage de cette jeune fille. C'est une jeune adolescente qui a grandi dans une famille chrétienne. Et c'est vrai qu'elle a confessé devant tout le monde sa foi, mais elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Elle disait, mais moi je pensais pour m'approcher de Dieu, pour faire des expériences avec Dieu, je pensais qu'il fallait que je fasse comme les gens qui sont allés loin dans le péché avant de se convertir, et puis Dieu les a délivrés, et puis ça y est. Mais elle disait, mais moi j'ai pas vécu tout ça. Moi j'étais dans une famille chrétienne, je ne me suis pas drogué, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais eu de mauvaise fréquentation. Et elle a dit, mais en fait, un jour le Seigneur m'a montré qu'il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit de s'engager à le suivre. Et de réaliser aussi que c'est une grâce que d'avoir été préservé de tout ça. Aujourd'hui, un enfant qui n'a pas été blessé, violenté, abusé, ben ça devient de plus en plus rare, malheureusement. Et c'est une grâce de vivre dans une famille où les parents s'aiment, où il y a la paix, où il y a un bon enseignement, où on aime le Seigneur, où on prie ensemble, où on lit la parole ensemble. C'est une grâce. Et cette jeune fille, elle a compris ça. Alors, le jour où elle a compris ça, elle est allée dans sa chambre, toute seule, s'est mise à genoux, toute seule, et elle a demandé pardon pour son péché. Et elle s'est repentie, et le Seigneur l'a pardonnée. Et elle est devenue une nouvelle créature. Et peu de temps après ça, elle est venue me voir. Voilà, j'aimerais me faire baptiser. Et j'avoue que dès la première leçon au baptême, j'ai senti tout de suite qu'elle avait fait l'expérience, une bonne expérience. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, mais en creusant un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas encore tout à fait clair pour eux. Mais elle, c'était clair, clair, net et précis. Et elle s'est engagée à suivre le Seigneur. Et je sais que le Seigneur, il y a une faveur particulière sur sa vie, parce qu'il y a eu, toutes ces personnes sont venues, ce n'était pas pour rien. Parce qu'elles avaient besoin d'entendre ces choses-là. C'est bon de confesser sa foi. C'est bon de donner à ceux qui nous entourent des convictions. Alors c'est sûr qu'à l'occasion du baptême, c'est un bon moment pour le faire. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Tous les jours, que ce soit par nos bouches, que ce soit par nos vies, nous devons montrer notre conviction et notre confiance envers notre Seigneur. Soyons profondément convaincus ce matin que notre Dieu est plus grand que tous nos combats. Notre confiance aussi, elle grandit dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce que vous désirez le plus ici-bas? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Ça peut être toutes sortes de choses. Mais regardez ce que David, lui, désire. Au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. » Ce n'est pas juste une chose optionnelle. Non, non, une chose que je désire plus que tout. « Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Je voudrais habiter toute ma vie. Oh, il ne s'agit pas de venir installer des lits de camp dans la salle de culte, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est pas ça la maison de l'Éternel. Bien sûr, quand les croyants se rassemblent et louent le Seigneur, ça devient la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, c'est chacun de nous, nos vies. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et David avait compris qu'il avait besoin d'un moment personnel, d'intimité et de communion avec Dieu. Et pourquoi faire? Pour lui demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, j'ai besoin. Non, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que parfois vous êtes lassé de la présence de Dieu? Est-ce que parfois vous êtes fatigué et vous ne trouvez pas la force? Ça peut arriver, hein, parfois. Mais c'est peut-être parce qu'on ne regarde pas de la bonne manière. Quand on contemple le Seigneur véritablement, alors il y a toujours un renouveau, toujours une fraîcheur, toujours quelque chose qui se passe en nous, une étincelle qui se rallume quand on vient dans la présence de Dieu, quand on rentre dans le Saint des Saints et quand on est au contact de notre Seigneur. On l'a dit plusieurs fois dans les louanges, mais nous avons cet accès parce que Jésus a versé son sang. Le voile a été déchiré et nous avons pleinement accès maintenant à la présence du Seigneur. Mais combien c'est dommage de s'en priver. Je lisais un livre il y a longtemps qui disait que le voile est déchiré, mais il y en a beaucoup qui dansent devant le voile pour se réjouir qu'il est déchiré, mais qui ne pénètrent pas dans le lieu très saint. C'est une image, hein, bien sûr. Mais c'est bien de se réjouir que le voile est déchiré, mais il faut rentrer dans l'intimité de la présence de Dieu. Vous avez déjà contemplé le ciel? Vous avez déjà remarqué que plus on contemple le ciel, plus on s'habitue à la luminosité ou au manque de luminosité. Et au début, on voit quelques étoiles par-ci, par-là. Et puis, quand on regarde de plus en plus attentivement, on s'aperçoit qu'il y en a qui brillent un petit peu moins que les autres et qu'on arrive à discerner. Et en faisant comme ça, en prenant des outils après, des télescopes, en envoyant même des satellites à l'autre bout de la galaxie, on est capable de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir habituellement. Avec le Seigneur, c'est pareil, sauf qu'il suffit d'ouvrir la Bible. Et il y a un jour, on s'aperçoit que tel verset nous touche, mais le lendemain, en passant dans un autre texte, c'est un autre verset qui va nous toucher. C'est un continuel renouveau quand on le laisse alimenter par l'amour de notre Seigneur. Je demande à l'Éternel une chose, habiter dans sa maison, car il me protégera. La protection de Dieu ne vient pas quand je passe mon temps à demander à Dieu qu'il me bénisse. La protection, bien sûr qu'il le fait parfois, mais la protection de Dieu, elle vient surtout quand on a l'habitude de venir dans sa présence, dans son temple, quand on a l'habitude de prendre un moment de communion personnelle. Là, le Seigneur nous garde et nous protège, et il permet de faire le tri dans nos pensées, parce que nos pensées, elles vont parfois dans tous les sens. Mais quand on est dans la présence de Dieu, le Seigneur, il filtre tout ça. Son Saint-Esprit nous éclaire, sa lumière brille sur nous, et nous permet de savoir les décisions que nous devons prendre. Combien ça m'est arrivé parfois, moi, de me retrouver dans mon bureau, à l'église, et puis de sentir le découragement. Je n'étais pas découragé, mais je sentais le découragement à la porte. Vous avez déjà vécu ça, peut-être? On sent les choses venir. Mais je me souviens que dans ce moment-là, je ne faisais rien d'autre que, avec ma Bible ouverte, de prier le Seigneur. Et de prendre du temps. Tout simple. Sans chercher à savoir qu'est-ce que je vais prêcher dimanche. Non, non, non. Je me fais du bien dans la présence de mon Dieu. Et là, en quelques instants, le Seigneur me donne des paroles précises qui me donnent de l'espoir et qui me montrent aussi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Il m'a donné l'idée pour un thème de prédication que je devais faire à la rentrée, etc. Toutes sortes de choses qui se sont passées parce que j'en avais besoin. Mais si j'avais continué à courir dans tous les sens, il faut aller faire ceci, faire cela, mais je n'aurais pas entendu la voix du Seigneur. Mais passer du temps dans sa présence, c'est tellement bon. Est-ce que vous attendez le jour du malheur
pour chercher Dieu. On a souvent tendance à faire ça. Mais posez-vous la question, est-ce que vous achetez l'extincteur le jour où il y a le feu ? Bon, dans les lieux publics, on est obligé d'avoir les extincteurs. Mais à la maison, ce n'est pas obligatoire. Mais quand il y a le feu, on est bien content que l'extincteur il soit là. Et quand on a pris l'habitude de chercher le Seigneur, on est bien content qu'il nous secoure quand on est dans le temps du malheur. Quelle grâce dans la tourmente et dans les combats de trouver un havre de paix. Trouver un havre de paix alors que tout semble noir autour. Est-ce que c'est possible ? Oui. Il y a un mois maintenant, j'ai visité un couple dont la femme est en dépression. Et donc elle voulait qu'on discute un petit peu, que je lui donne quelques conseils par rapport à la parole. C'était des personnes qui n'avaient aucun contact avec l'Église. Ils regardaient des vidéos sur Internet évangéliques et ils ont entendu parler donc, de Jésus-Christ, de la croix, etc. Donc ils se sont posé des questions et ils ont pris contact avec moi. La maman du monsieur, elle était chez les Témoins de Jéhovah. Et parce qu'ils ont entendu ces prédications, ils ont compris que ce n'était pas bon. Donc ils l'ont dit, non, viens, on va demander à un pasteur de venir, on va parler avec lui. C'est comme ça que j'ai été mis au contact de ces personnes. Donc je suis venu visiter ce couple, et la dame avait les traits tirés, donc la fatigue chronique, la dépression qui était là, elle racontait, c'était difficile. Toutes les nuits, elle faisait des cauchemars. Toutes les nuits, elle avait un sommeil agité. Et alors qu'elle me parlait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas net. Excusez-moi de le dire comme ça, hein. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui va plus loin que le physique, quelque chose de spirituel, de pas net. J'ai dit, mais madame, dans vos tourments, est-ce que vous n'avez pas été voir des voyants ou est-ce que vous n'avez pas touché à des choses occultes ? Et donc, surprise de la question, elle m'a dit, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai commencé à regarder sur Internet certaines choses et puis j'ai même été mis en contact avec un homme qui, par téléphone, il m'a stimulé le cerveau. Il a fait certaines pratiques, je ne sais même pas qu'est-ce que c'était exactement. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas bien. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que ces choses-là, ce n'est pas de Dieu, c'est des choses qui vous amènent la malédiction. C'est les ténèbres. Elle dit, ah, mais je n'avais pas conscience de ça. Même la personne qui m'a fait ça, elle m'a dit que c'était Dieu qui l'envoyait. Vous savez comment on reconnaît quelqu'un qui vient envoyé de Dieu ? Mais c'est qu'il y a aussi, il n'y a pas que le miracle, il y a le message qui va avec. Le message de la croix. La Bible dit, Jésus a dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de miracles au point de séduire même les élus. Mais est-ce qu'il y a le message de la croix ? Sinon, c'est des miracles mensongers. Et donc, cette dame a dit, mais je n'avais aucune conscience de cela. Alors je lui ai dit, madame, il suffit que vous vous repentiez. La grâce de Dieu, elle est là sur votre vie, mais il y a comme un obstacle, cette malédiction, elle est comme un obstacle au-dessus de votre vie qui empêche la faveur de Dieu de vous bénir. Mais si vous vous repentez, ça va aller mieux. Alors elle a dit, oui, je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. Vous savez, ce n'est pas difficile de prier. Hein. Il suffit de parler. Parler à Dieu. Alors je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais prier avec vous. Vous avez juste à répéter ce que je vais dire. Et on a fait ça vraiment très simplement. Seigneur, pardon pour ces pratiques mauvaises que j'ai faites et dont je n'avais aucune connaissance que c'était mal. Vous savez ce que dit la parole ? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle les hommes à se repentir. Et c'est ce qu'elle a fait, cette dame, de tout son cœur. Elle s'est repentie, et puis tout a été terminé là. Je suis donc parti. Mais le lendemain, j'ai eu un texto du monsieur. Il m'a dit, monsieur le pasteur, c'est incroyable. Mais cette nuit, alors que ça fait des années qu'elle faisait des cauchemars, cette nuit, elle a dormi comme un bébé, ma femme. Elle a été totalement libérée de ces choses. Et maintenant, ça fait un mois que ça s'est passé. Et à chaque fois que je les vois, je dis, alors, vous avez bien dormi ? Et il me dit, mais oui, j'ai bien dormi. Parce qu'il y a un Dieu qui respecte ce qu'il dit dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, mais il est vrai. Et quand on se repent, mais la faveur de Dieu est sur notre vie. Et même quand on est dans les combats, mais qu'on cherche la présence de Dieu, qu'on cherche la communion avec Dieu, mais Dieu déverse sa paix. La paix de Dieu, même dans nos sommeils. Combien parmi nous peut-être sont troublés la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à dormir ? Mais demandez au Seigneur. Il est celui qui donne sa paix. Je termine avec ce troisième point. Notre confiance en Dieu grandit quand nous marchons dans la consécration. Ce n'est pas parce qu'il y a un combat que je dois m'arrêter. Mais parce qu'il y a un combat, je dois aller de l'avant. Et ça, c'est très important. Parce que, humainement parlant, fatigué par les combats, on peut s'arrêter sur le bord du chemin. David dit au verset 7, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » La particularité de David, c'est qu'on voit sa consécration dans le fait qu'il recherche le Seigneur, qu'il a cette vie de prière vraie. On voit bien qu'il n'utilise pas des formules toutes faites, mais on voit qu'il déverse son cœur dans la présence de son Dieu. Et c'est ça la foi, c'est ça la prière que Dieu bénit, c'est ça la prière que Dieu exauce. Ce n'est pas une prière bien construite. Tant mieux si nous savons bien prier, bien parler. Tant mieux si nous avons une certaine éloquence dans notre prière. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on va être exaucé. C'est est-ce qu'elle vient de notre cœur ? Si elle vient du cœur, alors le Seigneur va nous entendre. Nous avons le droit et nous avons même le devoir de faire connaître nos besoins au Seigneur. Aie pitié de moi. Vous avez déjà dit ça au Seigneur ? Seigneur, aie pitié de moi. Là. Je suis fatigué, je suis lassé, je n'en peux plus. Mais viens. Aie compassion de moi. Est-ce que vous pensez que le Seigneur va avoir compassion ? Oh, je le disais à une dame qui est venue dimanche pour la première fois, et alors qu'on parlait, me posait des questions sur la foi, il y avait son petit enfant qui était là de 2 ans à côté, et c'était drôle parce qu'à un moment donné, on parlait sérieusement, puis le petit enfant s'est mis à pleurer, à crier, et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a arrêté la conversation, elle a ouvert son sac, elle a sorti un biberon ou une sucette, et puis hop, elle lui a donné. Et je lui ai dit, mais vous voyez là, ce que je suis en train de vous parler, c'est exactement ça. Dieu est notre Père. Et quand on crie à lui, quand on pleure, alors pas comme un bébé, hein, mais quand on le fait bien, de tout notre cœur, parce qu'il y a un besoin qui est là, mais quel père ne va pas être ému par son enfant ? Quelle mère ne va pas être émue par son enfant pour lui donner quelque chose ? Dieu, il va le faire. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et combien c'est bon de venir dans la présence du Seigneur et de se consacrer en lui faisant connaître nos besoins. Mais aussi, la consécration se manifeste par l'écoute de la voix de Dieu. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Est-ce que vous entendez dans votre cœur cette voix qui vous dit, cherche la face de ton Seigneur ? Est-ce que vous l'entendez ce matin ? Est-ce que vous l'entendez au travers de ses paroles ? Mais c'est quelque chose qui est là comme un son continuel. Le Saint-Esprit nous pousse que à une seule chose, c'est de chercher la face de notre Seigneur. Quand est-ce la dernière fois que vous avez entendu Dieu vous parler dans votre cœur de manière précise ? Je ne dis pas une voix audible, mais quelque chose qui vous a touché. Vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé. Ça vous a fait du bien ? Oh, moi, je bénis le Seigneur toutes les fois où ça arrive. Des fois, on a besoin d'une direction précise, on a besoin d'une réponse. Et on a un Seigneur qui nous parle. Un Seigneur qui a compassion de nous, qui sait que combien ça peut être angoissant de ne pas savoir quoi faire, et qui va nous donner cette parole d'apaisement. Et la réponse de David à cette proposition de son cœur, « Cherchez ma face !» Ben, je cherche ta face, ô Éternel. Oui, oui, j'y vais tout de suite, j'attends pas que ça aille mieux, j'attends pas quoi que ce soit. Non, j'y vais. C'est ça la consécration, c'est pas attendre que tout s'arrange, que de manière visible, les choses aillent mieux. Non, la consécration, c'est que j'avance, même si tout est pareil, même si je vois rien changer. J'avance parce que je sais en qui je crois. Je sais que j'ai un Dieu qui veut prendre soin de moi. Quand nous entendons le murmure doux et léger de la présence de notre Seigneur, obéissons. N'attendons pas, mais obéissons-lui immédiatement. Au verset 9, il dit « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. » Vous sentez vraiment dans David, il y a des fois des proclamations de foi, l'assurance, et puis parfois une certaine fragilité. Mais c'est bon parce que c'est un être humain. Et il dévoile un peu toutes ces émotions-là pour nous montrer qu'il n'est pas un surhomme. Mais il se pose cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui s'est interposé entre moi et mon Dieu ? Non, David, jamais. David, c'est un homme parfait, parfaitement saint, parfaitement pur. C'est ça? Pas tout à fait. Hein. Quand on connaît l'histoire, on sait qu'il a fait des choses très graves. Mais il a su à chaque fois revenir. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où il a soin, il demande, et même ailleurs il va le dire de manière très, très précise, « Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est bon de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Parfois on se sent bien, on pense que tout va bien, mais quand le Saint-Esprit sonde notre cœur, il va nous montrer peut-être une petite chose qui est là. Il va nous donner un discernement plus profond de son esprit dans nos cœurs. Parce que quand on cherche le Seigneur, quand on laisse notre cœur être sondé par le Seigneur, on a un Seigneur qui nous attend au rendez-vous. La faveur de Dieu va être sur celui qui est vrai dans son cœur, dans le cœur qui s'attache à obéir et à suivre. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord de grandir dans cette confiance, dans les combats ? Je serai plein de confiance malgré les combats.
Amen.